Si vous avez un petit peu d'expérience dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, si vous êtes déjà venu à l'église au moins quelques fois, si vous avez déjà feuilleté la Bible ou écouté quelques prédications sur Internet, vous savez sans doute déjà que Dieu promet beaucoup de choses à ceux qui se confient en lui, à ceux qui croient en lui. Dieu nous promet un cœur nouveau. Il nous promet de nous garder de tout mal, il nous promet la vie éternelle, il nous promet que nous régnerons avec lui sur la terre, il nous promet de faire disparaître du monde toute souffrance et toute injustice, etc., etc. Nous affirmons ces choses intellectuellement, en tout cas nous le faisons dans notre église, je ne sais pas pour les autres églises, mais pour beaucoup d'églises c'est le cas, mais est-ce que nous les croyons sincèrement ces choses? Nous les affirmons intellectuellement, mais est-ce que nous les croyons sincèrement? En réalité, je crois que nous avons un sérieux problème, c'est que les circonstances présentes et ordinaires de notre vie nous semblent souvent contraires à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et par conséquent, ces circonstances que nous traversons, ces circonstances présentes et souvent ordinaires de notre vie, sont susceptibles de provoquer le doute en nous. Dieu m'a promis un cœur nouveau. Et pourtant, c'est quoi la réalité? Je continue de pécher contre lui et contre mon prochain. Dieu m'a promis de me garder de tout mal. Et pourtant, me voilà gravement malade, ou victime d'un cambriolage, ou d'une agression dans la rue, ou handicapé à la suite d'un accident de la route. Dieu m'a promis la vie éternelle, pourtant me voilà sur le point de mourir. Dieu a promis que les croyants régneraient avec lui sur la terre. Et pourtant le monde semble être dirigé de plus en plus par des gens qui sont anti-chrétiens, en tout cas loin d'être des chrétiens. Dieu a promis de faire disparaître la souffrance et l'injustice. Mais on n'a pas l'impression que ces choses sont en train de diminuer dans notre histoire. Or, il faut comprendre une chose, c'est que ce genre de perplexité, ce n'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui, puisque les croyants ont eu ce genre de perplexité plein de fois au fil du récit biblique depuis les temps les plus anciens, depuis l'époque d'Abraham jusqu'aux temps les moins anciens, le temps des apôtres, qui nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Et tout particulièrement, les Israélites vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc vous voyez, ça fait longtemps, et bien ils étaient dans une situation où tout leur semblait contraire à l'accomplissement des promesses de Dieu. Rappelez-vous, les Israélites, ils étaient censés être le peuple élu de Dieu, vecteur de la bénédiction de Dieu pour le monde. Un peuple qui, rappelez-vous, devait être plus nombreux que les étoiles dans le ciel et que le sable sur la plage au Brésil. Un peuple qui devait prendre possession de pratiquement toute la Mésopotamie. À l'époque, c'est un territoire immense et qui devait être gouverné selon les lois bienfaisantes de Dieu. Voilà ce que Dieu avait promis de faire pour Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que vers le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, les Israélites, ils ont connu jusque-là, au fil de leur histoire, le déclin spirituel, le déclin économique, le déclin politique, le déclin même territorial. Peu d'Israélites au 6e siècle avant Jésus-Christ sont fidèles à Dieu. Les rois d'Israël, les gouvernants, les princes, les juges, ils promeuvent l'idolâtrie. Et en plus de tout ça, on a les ennemis d'Israël, les peuples environnants, qui les assaillent de toutes parts militairement. Alors, elles sont où les belles promesses de Dieu? Et c'est peut-être la question que vous vous posez aussi aujourd'hui, avec un brin de cynisme. Où sont passées ces belles promesses que Dieu fait aux croyants? Eh bien, c'est pour répondre à cette perplexité des croyants que Dieu a envoyé justement le prophète Abdias auprès de son peuple, à peu près vers cette époque dont je parlais, au 6e siècle avant Jésus-Christ, où les Israélites avaient toutes les raisons de douter de la fiabilité des promesses de Dieu à cause des circonstances de leur vie à ce moment-là. Et vous allez voir que le message que Dieu a confié à Abdias concerne particulièrement un peuple ennemi d'Israël du nom de Édom. Et ce message consiste tout simplement en l'annonce de la destruction à venir de cette nation qui s'appelle Édom. Mais comprenez bien quel est le contexte avant que nous fassions la lecture. Pour les Israélites, Édom fait partie de ces nations puissantes et ennemis qui sont alors en situation de force dans la région. Tandis qu'Israël, en tant que peuple, c'est plutôt un peuple faible et vulnérable. Et donc, l'annonce de la destruction d'Édom, qui est ennemi puissant d'Israël, qui est faible, l'annonce de la destruction d'Édom est un message favorable à Israël, destiné en fait à consoler les croyants et à les encourager dans leurs afflictions, avec cette leçon qui nous est destinée à nous aujourd'hui. Ouvrez grand vos oreilles, et c'est la leçon de tout ce passage. Les circonstances de notre vie, si impressionnantes soient-elles, changent. Mais la parole de Dieu ne change pas et demeure toujours fiable. Lisons le texte, donc. On va lire cette prophétie du prophète Abdias en entier. Il y a 21 versets en tout. Vision d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un émissaire a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Voici que je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es l'objet du plus grand mépris. L'insolence de ton cœur t'a trompé. Toi qui demeures dans les creux des rochers, dont l'habitation est élevée, et qui dis en toi-même, « Qui me fera descendre jusqu'à terre ?» Quand tu prendrais de la hauteur, tel un aigle, quand ton nid serait placé parmi les étoiles, je t'en précipiterais, oracle de l'Éternel. Si des voleurs, des pillards nocturnes viennent chez toi, ah, comme te voilà ruiné! Ne voleront-ils pas ce qui leur est nécessaire? Et si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils autre chose que du grappillage? Ah, comme Ésaü est fouillé! Comme ses cachettes sont éventrées! Tous tes alliés t'ont refoulé jusqu'à la frontière. Ils t'ont trompé. Ils l'ont emporté sur toi, tes amis. Ils se sont servis de ton pain comme d'un piège pour toi par-dessous. Il n'a point d'intelligence, disent-ils. N'est-ce pas, en ce jour, oracle de l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes vaillants, ô Théman, seront dans l'épouvante pour que tout homme soit retranché de la montagne d'Ésaü par suite de la tuerie. À cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras retranché pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où d'autres gens emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. N'arrête pas tes regards sur le jour de ton frère, le jour de son infortune. Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda, au jour de leur ruine. N'ouvre pas tout grand ta bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les villes de mon peuple, au jour de son désastre. N'arrête pas tes regards, toi aussi, sur son malheur, au jour de son désastre. Et ne porte pas la main sur ses richesses, au jour de son désastre. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses rescapés, et ne livre pas ses survivants, au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, et te sera fait comme tu as fait. Ta rétribution retombera sur ta tête. En effet, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Mais sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils seront saints, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il n'y aura aucun survivant pour la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Négeb posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la Shephela, le pays des Philistins. Ils posséderont la campagne d'Éphraïm et la campagne de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les déportés, cette armée d'Israélites, posséderont le pays des Cananéens jusqu'à Sarepta, et les déportés de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Négeb. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Voici pour la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, prions. Merci notre Dieu de nous donner l'occasion ce soir d'étudier ta parole. Et c'est vrai que lorsque nous lisons des textes de l'Ancien Testament, des textes anciens pour nous, dont nous ignorons beaucoup de choses concernant le contexte, Cela peut nous paraître très compliqué. Nous te demandons ton aide maintenant pour voir comment ces textes que tu as inspirés et que tu as destinés à notre édification, comment ces textes doivent s'appliquer dans notre vie, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire et aide-nous à recevoir ton instruction. T'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors ce texte, je le disais, c'est un message adressé au peuple d'Édom, qui est aussi appelé ici Ésaü. Un message adressé au peuple d'Édom, mais à l'attention d'Israël. Dieu prononce un jugement contre Édom, mais dans le but d'encourager Israël, vous comprenez ? Et c'est pourquoi c'est dans notre Bible aujourd'hui. Dieu s'adresse à Édom, il dit « Toi, je vais te faire ceci et cela », mais vraiment, c'est à l'attention des Israélites pour les encourager. Et si on prend les choses dans l'ordre, la première chose que Dieu veut faire comprendre à son peuple, c'est que lui, Dieu, est capable de surmonter l'insurmontable. Quand on regarde le texte, la première partie, les versets 1 à 9 notamment, on voit que Dieu annonce que la nation d'Édom va être châtiée et détruite. Ça, vous l'avez bien compris, je crois. Et ce châtiment et cette destruction, Dieu va les opérer malgré le fait que cette nation se croit invincible. Édom se croit invincible. Et Dieu nous fait comprendre ici que s'il décide d'agir dans un sens ou dans un autre, rien ne peut lui résister. Édom était une nation très fière d'elle-même, très sûre d'elle-même, pleine d'audace et de confiance en elle-même. C'était une nation idéalement située géographiquement, perchée dans les montagnes, nous dit le texte ici, ayant établi des alliances militaires stratégiques avec les autres nations puissantes de la région. C'était une nation plutôt prospère économiquement et une nation, semble-t-il, avec une véritable intelligence politique. Ils étaient ingénieux, ils étaient malins. Pourtant, qu'est-ce qui va lui arriver à cette grande nation ? Le texte le dit, Dieu le dit, « Je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es l'objet du plus grand mépris » au verset 2, et puis un peu plus loin, verset 9. « Tes vaillants seront dans l'épouvante pour que tout homme soit retranché de la montagne d'Ésaü, ou la montagne d'Édom, par suite de la tuerie. » Pour les Israélites qui entendent ce message à cette époque-là, c'est comme si aujourd'hui, Dieu nous envoyait un prophète pour nous dire « Tu vois cette grande puissance mondiale avec toute sa suprématie économique, culturelle et militaire. Tu la vois cette grande puissance dont tu entends parler aux informations, cette grande puissance qui est partout autour de toi. Eh bien, bientôt, ce pays sera insignifiant, plus faible qu'un pays du tiers-monde. » Ce serait frappant pour nous d'entendre ça. Certains de mes enfants aiment bien jouer à un certain jeu vidéo, à l'ordinateur, où il faut essayer d'établir une civilisation et la développer pour qu'elle soit la plus puissante de la partie. Bien sûr, on essaie du coup de construire les différents bâtiments de notre civilisation dans des endroits stratégiques où ils seront protégés, peut-être perché sur une montagne, ou en tout cas protégé par des falaises, etc. On essaie de développer son économie, de récolter les bonnes ressources, le bois, la nourriture, l'or, la pierre, etc. On se protège en construisant des tours et des murs pour se prémunir contre les attaques des adversaires, etc. etc. Et puis il arrive un moment où on se dit, si on a bien joué en tout cas, on se dit, ok, là c'est bon. Là c'est bon, je peux déstresser un petit peu parce que là on ne peut plus rien me faire. Je suis idéalement placé pour gagner au niveau des points, au niveau des points, bref, je suis devant tout le monde. Personne ne peut rien me faire. Et c'est le sentiment qu'avaient les Édomites, les gens de ce peuple d'Édom ou d'Ésaü, à cette époque-là. Ils pensaient avoir tout bien fait, être en position idéale pour ne pas être inquiétés. Mais c'est aussi le sentiment et l'impression qu'avaient les Israélites concernant les Édomites. Comme quand on joue au jeu de société les colons de Catan et qu'il y a quelqu'un autour de la table, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu de société, il y a quelqu'un autour de la table qui a réussi à construire toutes ces villes sur les bonnes tuiles, et donc il récolte les bonnes ressources à chaque tour. Il est en train d'augmenter sa puissance et ses points, et on a l'impression de rien pouvoir faire. On se dit, c'est plié, c'est lui qui va gagner. Et les Israélites se disaient ça concernant Édom. Ils se disaient, mais eux, ils ont réussi. Eux, ils sont idéalement placés. Ils sont intelligents, ils ont les bonnes alliances militaires, stratégiques. C'est bon, ils ne seront pas inquiétés. Eux, ils vont gagner, nous, on va perdre. mais Dieu fait comprendre ici, à Édom comme à Israël, que lui, Dieu, est capable de surmonter l'insurmontable. Bien sûr qu'il est l'un des capables, puisqu'il est Dieu. Rien ne peut lui résister s'il décide d'agir. Même ce qui nous semble insurmontable, ou ce qui nous semble invincible et intouchable. Concernant l'histoire des nations, d'ailleurs, nous, on a suffisamment de rétrospectives pour pouvoir analyser ce qui s'est passé dans l'histoire. L'histoire est jonchée de débris d'empires prétendument invincibles. Dans l'Antiquité, le grand empire qui menaçait vraiment Israël, c'était l'empire assyrien, qui s'étendait de l'Égypte jusqu'à l'équivalent de l'Irak aujourd'hui, un grand territoire, une grande puissance militaire. Quelques années plus tard, ils ont été renversés, les Assyriens, par un autre empire qui a pris leur place, les Mèdes. Mais les Mèdes aussi, après, ils ont été renversés par un autre empire, l'empire perse, qui lui-même a été renversé par les Grecs, avec le grand Alexandre, Alexandre le Grand. Et un territoire qui allait jusqu'au-delà du Pakistan, rendez-vous compte. Mais les Grecs, avec toute leur force, ils ont été renversés eux aussi par les Romains. Et les Romains aussi, ils ont disparu en tant qu'empire. Le XXe siècle, à lui tout seul, a vu l'effondrement de 7 empires. L'empire de la dynastie Qing en Chine, qui a régné pendant pratiquement 3 siècles jusqu'en 1911. L'Empire allemand, qui a pris fin en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, comme d'ailleurs l'Empire austro-hongrois. Il y a aussi l'Empire ottoman, qui a régné plus de 6 siècles, et qui a pris fin dans les années 20 du XXe siècle, 1920. L'Empire du Japon, qui s'est effondré après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, un grand empire, l'Empire britannique, qui a duré du XVIe siècle jusqu'à la période de la décolonisation, au XXe, qui a recouvert à son apogée plus de 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire un quart des terres émergées de la planète. Mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis bien sûr l'Union soviétique. Autant de puissances impressionnantes, semble-t-il invincibles à certains moments de l'histoire. Comment pouvait-on alors s'imaginer que ces empires puissent décliner et disparaître ? Mais comme on le voit dans ce texte, et j'aime bien la traduction française de la Bible, parce que Dieu tutoie les puissances de ce monde. Alors bien sûr, le tutoiement et le vouvoiement, ça n'existe pas en hébreu. Mais dans nos traductions, je trouve ça plutôt sympa. C'est anecdotique, bien sûr. Mais Dieu tutoie les plus puissants de ce monde. Dieu n'est pas impressionné, même si nous, nous le sommes. Parce que rien n'arrive à la cheville de Dieu. Ni la puissance politique, ni la puissance économique, ni la puissance intellectuelle, ni la puissance de la maladie, ni la puissance des démons ou du diable, ni la souffrance, ni le péché, ni même la mort, même si toutes ces choses nous paraissent à nous par moments insurmontables, n'est-ce pas ? Mais rien de tout cela n'arrive même à la cheville de Dieu. Rien ne peut résister à Dieu, et c'est bien la première chose que Dieu veut nous faire comprendre ici, si nous sommes tentés de douter de la fiabilité de ses promesses, tentés d'en douter à cause justement des circonstances présentes et ordinaires de notre vie, qui nous semblent en effet contraires à ses promesses, mais qui nous semblent par moments insurmontables et invincibles. C'est la base, mais c'est quand même super important. Dieu est capable de surmonter l'insurmontable. Mais, deuxièmement, la deuxième chose que Dieu veut faire comprendre à son peuple dans le texte ici, c'est que le jour vient où Dieu va rendre la justice. Le jour vient où Dieu va rendre la justice. Regardons en effet la suite du texte à partir du verset 10. Dieu, il va pointer un problème particulier chez Édom, cette nation qui s'appelle Édom. Quel est son problème ? C'est qu'il a l'habitude, ce peuple, de se rallier aux ennemis d'Israël. Et quand on y pense un peu, si on connaît un petit peu l'Ancien Testament et les promesses de Dieu concernant Israël, honnêtement, c'est vraiment stupide de se rallier aux ennemis d'Israël, si on croit aux promesses de Dieu. Pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut comprendre que Édom, tout en étant un peuple païen, c'est-à-dire un peuple qui n'est pas le peuple d'Israël, un peuple étranger à l'alliance de Dieu avec Israël, en même temps, Édom, c'est pas non plus un peuple comme les autres. Pas tout à fait comme les autres. Parce que les Édomites, comme ça qu'on appelle les habitants d'Édom, ce sont les descendants d'Ésaü. C'est pour ça que parfois Édom est appelé Ésaü ici dans ce texte. Ésaü, c'était le frère jumeau de Jacob, auquel, et c'est Jacob dont le nom a été changé à Israël, donc c'est de Jacob que vient Israël, même au niveau de son nom. Et c'est ce fameux frère jumeau auquel Jacob s'est substitué par de subtils subterfuges pour lui piquer sa place en tant qu'aîné de la famille, parce que Ésaü était sorti le premier, Jacob en second, mais Jacob lui a piqué sa place, et du coup il a détourné sur lui-même la bénédiction de son père, et il est devenu le grand patriarche et le père des 12 tribus d'Israël. Tout ça, ça nous est raconté dans le livre de la Genèse, chapitres 25 à 27. Tout ça pour vous dire quoi? Que les Édomites sont donc des descendants directs d'Abraham et d'Isaac. D'ailleurs, Édom ou Ésaü est appelé ici au verset 10, le frère de Jacob. Il dit, à cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Donc, Édom, c'est un peuple étranger à l'alliance de Dieu avec Israël, mais ce n'est pas non plus un peuple complètement étranger aux promesses de l'alliance que Dieu avait déjà faite à Abraham. Et ce que Dieu dénonce ici, c'est donc quelque chose de particulièrement odieux. C'est que dans leur haine contre Israël, il y avait déjà à l'époque d'Ésaü et de Jacob beaucoup d'animosité entre les deux, beaucoup de violence, beaucoup de conflits, mais dans leur haine qu'ils ont héritée de leur parents, si j'ose dire, dans leur haine contre Israël, les Édomites se sont ralliés aux ennemis d'Israël. Ils se sont rendus complices des afflictions qui touchent Israël et ils applaudissent même lorsqu'Israël est en souffrance. Ils sont là, c'est un peuple voisin, et ils voient quand les Assyriens, ils arrivent, ils commencent à attaquer Israël. Les Édomites sont pas loin, ils sont un peu en tribune, ils disent « Ah, l'Assyrie, ah, les l'Assyrie, ah, bah, Israël, ah, bah, Israël. » Ils applaudissent, vous voyez, ils prennent parti contre leurs frères, contre leurs cousins, si j'ose dire. Alors qu'ils sont pourtant pas complètement étrangers aux promesses de l'alliance faite avec Abraham. C'est particulièrement odieux. Et Dieu dit à Édom ici, mais arrête, arrête de faire ça. Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas tout grand ta bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les villes de mon peuple au jour de son désastre, etc., etc. Ne participe pas à ça. Ne te rends pas complice de ça, ne te rallie pas aux ennemis d'Israël. Les Édomites, en fait, ils étaient connus pour ça dans l'histoire. Des fois, ils attaquaient directement les Israélites, mais le plus souvent, ils étaient alliés avec les ennemis d'Israël. Les Édomites, ils faisaient un peu comme les Écossais font par rapport aux Anglais. Vous savez, en Écosse, on a une tradition, notamment dans le monde du sport, c'est qu'on est toujours du côté de l'équipe qui est opposée aux Anglais. Peu importe si c'est les Italiens, les Français, les Irlandais, les Japonais, les Chinois, on s'en fiche. S'ils sont contre les Anglais, on est toujours pour ceux qui sont opposés, toujours pour les adversaires des Anglais. C'est une tradition un peu rigolote. Les Lyonnais, ils font un peu ça, des fois, en foot, contre les Stéphanois. Peu importe qui c'est qui joue contre Saint-Étienne, on va soutenir ceux qui jouent contre Saint-Étienne, parce que tout ce qu'on veut, c'est que Saint-Étienne y perde. Comprenez ? Eh bien, c'est un peu l'attitude des Édomites dans le texte, mais c'est beaucoup plus grave, parce que l'objet de leur haine irrationnelle, c'est le peuple de Dieu, objet des promesses de Dieu. Et Édom doit donc arrêter de se comporter comme ça. Pourquoi ? Parce que le jour vient où Dieu va pleinement rendre la justice. C'est ce qu'il fait comprendre ici à travers ce texte. Il est d'ailleurs déjà en train de rendre la justice en châtiant son propre peuple, les Israélites, à cause de leur péché et de leur obstination dans leur péché, malgré les nombreux avertissements qu'ils ont reçus de la part de Dieu à travers les prophètes au fil des siècles. Et donc le désastre, la ruine, l'infortune, la détresse dont il est question dans ce texte, qui sont celles d'Israël, ce sont pas des accidents de parcours, c'est pas « oh flûte, mon peuple se fait attaquer », c'est Dieu qui a voulu ces choses pour châtier son peuple conformément aux avertissements qu'il leur a adressés pendant des siècles et des siècles déjà. Dieu est en train d'utiliser les nations païennes environnantes pour châtier son peuple, mais gare à ceux qui applaudissent en ce jour-là, gare à ceux qui se rallient à ces peuples païens, ennemis d'Israël. Parce que Dieu, il est en train de rendre la justice, et il rendra la justice jusqu'au bout, c'est-à-dire que le jour de la rétribution de toutes les nations viendra lui aussi, d'après les versets 15 et 16. Le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Et il faut que cette réalité conditionne les choix présents d'Édom à l'époque d'Abias, comme les nôtres aujourd'hui. C'est un peu comme si vous habitiez sur une île paradisiaque dans l'océan Pacifique, une île qui s'appelle l'île de Guam. Qu'est-ce qu'on y est bien là-bas? Mais un jour, un voisin vous prévient que la Corée du Nord est sur le point d'envoyer un missile nucléaire sur l'île. Vous avez le choix de le croire ou non. Disons qu'un deuxième voisin vous dit la même chose, et le lendemain, vous voyez ce voisin qui abandonne son domicile avec sa famille pour partir à l'autre bout du monde. Vous avez encore le choix de le croire ou non. Disons que vous allumez la télé et que tout le monde parle de cette attaque nucléaire imminente sur l'île de Guam. Disons que des militaires américains viennent taper à votre porte pour vous dire d'évacuer. Vous avez toujours le choix de le croire ou non. Mais selon toute vraisemblance, vous allez le croire. Et vous allez même en tirer des conséquences assez drastiques et très pratiques pour votre vie, n'est-ce pas ? La réalité d'un événement futur peut et parfois doit conditionner nos choix présents, n'est-ce pas ? C'est logique. Et c'est le même principe ici dans le texte. Après avoir dit qu'il était capable de surmonter l'insurmontable ou de vaincre l'invincible, Dieu dit maintenant qu'il va le faire. Non seulement j'en suis capable, mais je vais le faire. Le jour vient, dit Dieu, où il va rendre la justice. Dieu exerce déjà ses jugements au fil de l'histoire, souvent de façon partielle, de façon limitée, mais le jour vient où Dieu va rendre parfaitement, pleinement la justice. Et donc, nous avons le choix aujourd'hui, à l'annonce de ce message que Dieu nous adresse, comme il l'a adressé aux Israélites et aux Édomites, et même à toutes les nations environnantes à l'époque d'Abias, et comme il nous l'adresse indirectement à nous aujourd'hui, nous avons le choix, face aux circonstances de notre vie qui nous semblent contraires aux promesses de Dieu, nous avons le choix de croire, oui ou non, que Dieu un jour va quand même rendre la justice. Et nous avons le choix de vivre en conséquence ou non. Mes amis, ça veut dire que non, les puissants de ce monde, même les plus puissants de ce monde, n'auront pas le dernier mot. Et si vous êtes tenté de le croire, je vous dis maintenant, c'est pas vrai, ils n'auront pas le dernier mot. Non, l'argent, la puissance économique n'aura pas le dernier mot. Ni la force militaire, ni même le diable avec tous ses démons, il n'aura pas le dernier mot. Ni le péché avec toutes ses addictions et ses convoitises, ni la maladie, ni la souffrance, ni le handicap, ni l'injustice, ni même la mort n'aura le dernier mot. Ça, c'est la vérité. Et à nous de choisir maintenant. Est-ce qu'on va conduire notre vie en fonction de ces réalités-là ou en fonction du plan de Dieu qui nous a fait connaître par le moyen de la Bible et d'après lequel le jour vient où il faudra être sûr alors d'être du côté de Dieu et pas du côté de toutes ces réalités passagères et d'avoir conditionné notre vie présente selon la réalité de la parole de Dieu, selon ce qui ne change pas, plutôt que d'avoir conditionné notre vie selon ces réalités passagères, éphémères, faibles, qui changent en fin de compte. Alors ça fait peut-être un peu peur ce que je dis là. Et c'est sans doute l'effet que Dieu voulait précisément produire sur les gens qui ont reçu ce message de la part d'Abdias à l'origine. Mais la fin de son message, la conclusion de sa prophétie est là justement pour nous remplir d'espérance. En effet, la dernière chose que Dieu veut faire comprendre à son peuple dans le texte, c'est qu'en fin de compte, son plan en faveur des croyants va triompher. Son plan en faveur des croyants va triompher. En fait, la conclusion de cette prophétie est extrêmement positive pour les Israélites de l'époque qui reçoivent avec foi ce message d'Abdias et qui se confient en Dieu. Dieu annonce, à partir du verset 17 et jusqu'à la fin, qu'il va rétablir une relation entre lui et les croyants, qu'il va rétablir la sainteté du peuple, c'est-à-dire le fait que ce peuple est le peuple choisi, élu de Dieu, mis à part. Il va donner à son peuple la suprématie sur ses ennemis. Il va donner à son peuple le territoire promis et même au-delà de ce qu'il a jamais possédé jusqu'alors. Bref, Dieu va réaliser ce qu'il avait promis il y a bien longtemps à Abraham. Il va réaliser cette promesse d'un peuple nombreux dans un pays béni, ayant le privilège de connaître Dieu. Et finalement, ce que Dieu fait ici, en conclusion de ce message, c'est qu'il répète et qu'il renouvelle tout simplement ses promesses. C'est comme s'il disait à Israël, écoutez, les Israélites, vous êtes d'horribles pécheurs, je vous ai averti depuis longtemps contre les conséquences de vos péchés, vous êtes en train de cueillir aujourd'hui avec les assauts des Assyriens et des Édomites et des Moabites et des autres, vous êtes en train de subir aujourd'hui et de cueillir aujourd'hui les fruits de votre obstination. C'est ce qui explique le succès de ces peuples méchants qui vous environnent. Mais je sais aussi, moi l'Éternel, votre Dieu, je sais aussi que dans votre affliction, vous êtes tentés de croire que mes plans ont changé et que je ne tiendrai pas mes promesses en faveur des croyants. Détrompez-vous, dit Dieu. Détrompez-vous, mon plan tiendra bon. Je suis précisément en train de réaliser mon plan. Je vous répète d'ailleurs par les paroles de mon, par la bouche de mon serviteur Abdias, je vous répète que je vais accomplir pour tous ceux qui se confient en moi précisément tout ce que je vous ai promis. Ça me fait penser un peu à ma relation avec mes enfants. Alors moi, contrairement à Dieu, des fois je ne tiens pas mes promesses. Et mes enfants ont sans doute raison, parfois, de douter de ma parole. Je l'avoue. Mais parfois aussi, je leur promets quelque chose, et quand ils se demandent si je vais vraiment le faire, peut-être parce qu'il y a des circonstances qui semblent compromettre la réalisation de ma promesse, quand ils se demandent si je vais vraiment le faire, et quand ils me demandent, et qu'ils me harcèlent, pour savoir si je vais vraiment le faire, je leur dis et je leur répète, écoutez, faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas, tu vas voir, patience, je répète que oui, je tiendrai ma promesse. Et vous savez quoi? Il arrive parfois que le moment venu de faire ce qui était promis, il arrive parfois que cela dépasse même leurs attentes. Oui, je vous avais promis qu'on irait au bowling. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'on fasse 3 parties de bowling. Et en plus qu'on mange au resto et qu'on aille au ciné après. Vous n'y attendiez pas. J'ai accompli ma promesse. Mais même au-delà de vos attentes. Et de la même façon, Dieu rassure son peuple ici en lui disant qu'il fera exactement ce qu'il a promis. Mais la suite de la Bible nous montre qu'il a fait même plus que ce que beaucoup d'Israélites attendaient. Alors que le peuple d'Israël, 6 siècles plus tard à peu près, vivait encore sous l'oppression d'un peuple païen. 6 siècles plus tard, c'était l'Empire romain qui opprimait les Israélites. À cette époque-là, Dieu a envoyé un libérateur qui a fait encore mieux que libérer les croyants d'un oppresseur politique. Il a, ce libérateur, libéré les croyants de leur propre péché qui était la cause de cette oppression politique. Jésus, en effet, Jésus le Christ, le Messie, le libérateur envoyé de la part de Dieu, s'est offert comme une rançon. Il s'est offert lui-même comme une rançon pour la délivrance des croyants. Et il est ressuscité en vainqueur, pas juste pour délivrer les croyants des Romains, mais pour les délivrer du mal, de la souffrance et de la mort. Je vous demande, si vous étiez opprimé par les Romains et qu'on vous propose de choisir entre une délivrance politique et la délivrance de vos péchés, de vos souffrances et de la mort, vous choisiriez quoi? Vous choisiriez d'être délivré de vos péchés, de vos souffrances et de la mort, sachant que cette délivrance-là emporte avec elle votre délivrance politique. Elle emporte avec elle une délivrance absolue de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous est contraire, de tout ce qui vous est hostile. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus n'a pas juste renversé un empire politique temporel, il a renversé l'ordre du cosmos. Il a dépouillé, pas juste Jules César, mais il a dépouillé Satan et ses démons. Il a établi son règne sur toute chose, pas juste sur la Palestine ou sur la Mésopotamie. Il a établi son règne sur toute chose par sa résurrection et par son ascension auprès de Dieu le Père. Et aujourd'hui, Dieu nous renouvelle ses promesses. Il nous répète ses promesses comme il les a répétées à Israël par l'intermédiaire d'Abdias. Il nous répète ses promesses qu'il a faites il y a bien longtemps à Abraham, à Isaac et à Jacob et qu'il a répétées tout au long de l'histoire d'Israël par tous les prophètes qu'il a envoyés à Israël et par Jésus et par les apôtres. Sauf que ses promesses aujourd'hui, Ces promesses que Dieu nous répète et qui sont les mêmes que celles qu'il avait faites à Abraham, ces promesses aujourd'hui, elles ne s'appuient pas seulement sur la parole de Dieu, mais ces promesses s'appuient aussi et en plus aujourd'hui sur l'œuvre accomplie du Messie, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui a vu et qui a vaincu. Parce que Jésus est mort et ressuscité, eh bien moi aujourd'hui, Alex, je peux me présenter devant vous et vous dire solennellement, de la part de Dieu, et je le dis avec beaucoup de gravité, si vous vous confiez en lui, si vous vous confiez en Jésus, mort et ressuscité, sachez pour sûr que vos péchés sont pardonnés. Dieu vous donne un cœur nouveau, sensible à sa loi, qui désire suivre Dieu. Dieu ne permettra pas au mal de l'emporter sur vous et de vous arracher de sa main. Dieu vous destine à ressusciter au dernier jour et à vivre éternellement avec lui. Dieu vous réserve une place dans son royaume qui s'étendra dans le monde entier pour l'éternité. Dieu essuiera toutes larmes de vos yeux. Il vous consolera parfaitement de toutes vos souffrances. Et il fera disparaître définitivement, en votre faveur comme en faveur de tous les autres croyants, il fera disparaître définitivement toute injustice, tout mal, et même le dernier ennemi, qu'est la mort. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Pour conclure, les circonstances de notre vie, si impressionnantes soient-elles, elles changent. Mais la parole de Dieu ne change pas et demeure toujours fiable. C'est toute la leçon de ce texte. Comme les Israélites à l'époque d'Abdias, les circonstances présentes et ordinaires de votre vie, de notre vie, peuvent nous sembler contraires, n'est-ce pas ? À l'accomplissement des promesses de Dieu. Et par conséquent, ces circonstances peuvent provoquer en nous le doute par rapport à ces promesses. Et donc à vous d'y penser maintenant. Quelles sont ces circonstances-là dans votre vie qui vous paraissent contraires à l'accomplissement des promesses de Dieu? Est-ce que c'est un péché récurrent, une addiction secrète? Est-ce que c'est l'actualité qui vous déprime, qui vous décourage? Est-ce que c'est une maladie qui est peut-être incurable? Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est tout simplement votre condition mortelle? Cette circonstance qui vous semble contraire à l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que c'est tout simplement le fait que vous allez mourir un jour? Eh oui, nous le savons, nous allons mourir un jour. Vraisemblablement. Quoi qu'il en soit, prenez à cœur le message d'Abdias. N'oubliez pas que Dieu est capable de surmonter l'insurmontable, que le jour vient où il va rendre justice, il va rendre la justice, et que son plan en faveur des croyants va triompher. Rien ne peut résister au plan de Dieu. Ce plan est favorable à ceux qui se confient en lui. Et notre espérance aujourd'hui s'appuie non seulement sur le fait que Dieu est Dieu, et non seulement sur le fait que ce Dieu qui est Dieu a fait des promesses qui sont donc fiables, puisque la parole de Dieu ne change pas, puisque Dieu ne change pas, mais notre espérance s'appuie encore sur le fait que Jésus, le Messie, le libérateur, le Fils même de Dieu, est venu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il siège maintenant à la droite de Dieu jusqu'au jour où il viendra de là, comme le dit le symbole des apôtres, pour juger les vivants et les morts et pour établir son règne une fois pour toutes dans le cosmos tout entier. Amen. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu de nous rappeler ce soir la fiabilité absolue de tes promesses. Et aide-nous, s'il te plaît, par ton esprit, à grandir en lucidité concernant les circonstances de notre vie qui parfois nous semblent insurmontables, invincibles. Rappelle-nous que toi, tu peux rien ne résiste à tes plans, tout simplement. Que même si nous sommes en proie à des afflictions, à des doutes, à toutes sortes de choses qui nous semblent contraires à l'accomplissement de tes promesses, eh bien, ton plan prévaudra de toute manière. Aide-nous à trouver dans cette réalité-là notre joie, notre réconfort, notre courage au quotidien. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.